CFM Villefranche, le mag.
C'est toujours très agréable et je crois que notre radio a cette mission et a aussi été imaginée pour ça dans les années 80. C'est toujours très agréable de prendre l'antenne pour donner la parole à des citoyens investis, engagés, passionnés. Et c'est, je crois savoir, le profil de l'invité du jour, animateur et organisateur de séances de cinéma en italien et autour du cinéma italien de répertoire. Il faudra nous expliquer des projections qui ont lieu au cinéma de Villefranche depuis le mois de novembre 2016. Bonjour, Andrea Pulga.
Pulga. Oui, Andrea, bravo, c'est presque bien prononcé. Oui. Bonjour tout le monde.
Bonjour Andrea, ça fait plaisir de t'accueillir et vraiment parce que tu représentes ce profil de citoyen engagé, passionné, à plus d'un titre à Villefranche-de-Rouergue. On va parler de cinéma aujourd'hui et de cinéma italien et notamment autour de ce répertoire. Il faudra expliquer à tout le monde ce qu'est ce répertoire, mais aussi engagé à d'autres titres à Villefranche-de-Rouergue. Je pense au collectif Migrant, notamment, fut un temps, à Enercoa. Mmh. Voilà, et on est ravis de se dire que notre petite antenne porte des initiatives sur le territoire. Et c'est la première fois que je reçois, j'aurais dû le faire bien avant, c'était une faute professionnelle. Si tu envoies une lettre à la direction, je comprendrais parfaitement.
Je ne ferai jamais ça, parce que de toute manière, l'opportunité de venir expliquer ici les raisons pour lesquelles j'ai tenu... quasiment depuis que je suis installé à Villefranche, à partir du moment où je suis parti à la retraite, ouais, de mon activité professionnelle, qui était, comme tu peux bien l'imaginer, dans le domaine du cinéma. D'ailleurs, mon aventure avec le cinéma a débuté en Italie lors de la création d'un des tout premiers ciné-clubs sur le territoire national de l'autre côté des Alpes en 78. Donc ça remonte déjà un tout petit peu. Mais bon, c'est parce que quand je suis parti à la retraite, je me suis enfin retrouvé dans la possibilité, d'après moi, de renouer avec quelque chose que j'avais dû un tout petit peu abandonner pendant mon expérience professionnelle directe, quand j'étais salarié, du fait que je n'étais pas directement impliqué dans la programmation des salles dans lesquelles je travaillais.
D'accord.
Alors que là, effectivement, j'occupe la place de celui qui propose les titres et en fait, si je fais le choix de consacrer mes sélections uniquement au cinéma italien que j'appelle moi
de répertoire,
c'est parce que le répertoire, d'après moi, est celui dans lequel on trouve des titres qui ont jalonné un tout petit peu, quelque part en tout cas, l'histoire du cinéma
et son
évolution.
L'histoire du cinéma italien, notamment,
exact.
Est-ce qu'il représente aujourd'hui, on a peut-être de le dire, mais il représente beaucoup le cinéma italien. C'est vrai que spontanément, si on ne se donne pas trop la peine, c'est ce que je te disais en aparté, on pense au western spaghetti.
Par
j'adore
exemple.
Le travail de Sergio Leone, la musique de
Morricone.
Ennio Morricone, j'allais dire d'Aldo Macchione, c'est dire comme...
non, j'étais pas un compositeur. Bon.
Après, si on va un petit peu plus loin, il y a Rocco Siffredi dans un autre style.
Mais oui, il avait d'autres performances.
Ça,
oui.
C'est quand on ne se donne pas trop la peine. Mais c'est vrai, quand on regarde un petit peu l'histoire du cinéma de Bologne, ville de 350 000 habitants, qui a vu naître quand même des grands noms du cinéma, et puis à Rome aussi, qui est la troisième ville au monde la plus cinématographiée, en même temps que Paris et New York. Et je crois qu'il y avait des studios, je ne sais pas si, peut-être qu'ils existent encore.
Bien sûr.
Cinecittà. Cinecittà. Donc, qui explique aussi que cette effervescence des années, allez, fin 50, 50, 60, 70, 80...
Oh non, bien avant, David.
Ah ouais.
Alors, Cinecittà a été voulu...
Alors, oui, Cinecittà, bien avant. Mais l'effervescence du cinéma italien, on peut dire que c'est les années 50 ?
Alors, pour ce qui est ce qu'on a appelé la période de la comédie à l'italienne, oui. Sinon, c'est aussi le point de départ, ce qui a donné naissance au néoréalisme. C'est-à-dire que les réalisateurs italiens les plus connus de l'époque, que ce soit Rossellini, Lizzani, Pietrangeli, etc., ont décidé d'aller filmer leurs histoires hors des studios de Cinecittà, justement. C'est ça qui a donné l'impulsion. Ce qu'on a appelé ensuite le néo-réalisme, c'est parce qu'effectivement, ils allaient au réel des situations et ils n'étaient pas dans la fiction des décors de studio. Ça, c'est un jalon. L'autre, c'est qu'effectivement, le cinéma avait besoin aussi de s'émanciper d'une certaine façon dont il avait été structuré pendant bien longtemps, à savoir surtout le fait que pendant toute la période fasciste, le cinéma avait une production essentiellement de propagande. Donc ils avaient besoin de trouver aussi des sujets qui n'étaient pas des sujets préformatés. Si on peut les appeler comme ça. Donc on a vu la naissance de réalisateurs qui ont fait le choix, dans un premier temps, comme Visconti par exemple, d'aller filmer dans les îles siciliennes la pauvreté des gens qui étaient obligés de travailler dans de très très mauvaises conditions pour arriver à peine à joindre le deux bouts, etc. Donc on est quand même là dans des conditions de réalisation de films que auparavant personne n'avait jamais connu, parce que même en France, même aux États-Unis, il y avait l'habitude de tourner les films dans les studios plus ou moins grands. Et là, c'est pour ça qu'on l'a appelé le néo-réalisme, et qui s'est effectivement a donné naissance à toute une série de formes cinématographiques de genre qui ont eu un rayonnement au niveau universel, pas uniquement pour la cinématographie italienne.
Avec, voilà, la période des années 50, 60, 70, d'ailleurs c'est la période dans laquelle tu puises pour faire la proposition au cinéma. Est-ce qu'on peut, alors avant de partir là-dessus, est-ce qu'on peut appeler ta proposition à Villefranche de Rouergue, est-ce qu'elle tourne autour d'un ciné-club ? Est-ce que c'est un ciné-club ou c'est des propositions de projection ? On est à mi-chemin.
Je pense qu'on peut, comment dirais-je, associer les deux principes, parce que moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est de faire découvrir un cinéma qu'à mon sens n'a pas été suffisamment promu, notamment dans des salles de province ou des salles de quartier. Donc, c'est rapprocher un tout petit peu plus de ce que j'ai connu, moi, en Italie, du temps où on gérait et on animait un ciné-club, et aussi le fait que ce sont quand même des films dont les droits de distribution, de diffusion existent toujours, donc qui ont un parcours cinématographique reconnu par les professionnels. Mmh. Donc, ça ne sort pas du cadre structurel qui est prévu pour le cinéma en général en France, parce qu'il faut un visa de censure pour pouvoir être projeté, et surtout pour pouvoir être projeté dans une salle d'exploitation cinématographique, mais aussi pour donner la possibilité aux spectateurs de participer un tout petit peu et ne pas venir tout simplement consommer. Donc, quand ils ont des questions autour du sujet proposé par le film, de la personnalité du réalisateur ou du fait d'y voir un acteur ou un autre, ou une actrice, peu importe, là, je donne moi personnellement, par l'intermédiaire des débats que j'incite un tout petit peu à la fin de chaque projection, aux personnes présentes qui le souhaitent, poser des questions, intervenir, faire des remarques, etc. Et ça, c'est plus le côté ciné-club, effectivement.
Du cinéma par des gens du cinéma, dont tu fais partie, pour le cinéma, par le cinéma, pour le cinéma. Mmh. C'est un peu aussi l'idée, et puis c'est l'éducation populaire, l'air de rien, et derrière tout ça.
Ah oui, c'est... Alors, ce qu'il y a de plus populaire, à mon sens, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, le sujet traité dans les films que je propose, parce que c'est un tout petit peu le sujet qui a traversé un tout petit peu l'histoire du cinéma italien à cette époque, c'est qu'on parle des gens, donc du peuple. Mmh. Que ça soit de manière parodique, que ça soit au travers du néo-réalisme, que ça soit par la comédie, on fait toujours la photo d'un aspect de la société.
C'est ce qui fait aussi la richesse du cinéma italien, c'est ça, c'est la diversité du nord au sud, les catégories socio-professionnelles en Italie, c'est une vraie nourriture, une vraie matière d'inspiration pour les réalisateurs.
Ça a été pendant très très longtemps. Ouais. Visconti, par exemple, a commencé par les pauvres pour arriver aux riches. Fellini s'est toujours amusé à faire à dessiner les contours de personnages de province.
Fellini, Palme d'Or 1963, voilà, Dolce Vita, pour la Dolce Vita.
Oui, et pas que de Palme d'Or, et des Oscars aussi. Enfin, c'est une vie professionnelle jalonnée de reconnaissance internationale multiple. Bon, c'est un peu la fierté aussi, parce que c'est quelqu'un qui est né dans ma propre région. Pasolini qui est né dans
à Rimini,
ma propre
précisément. Ville. À Rimini. Parce que certains disent qu'il serait né à Bologne. Non, c'est Rimini.
Non, c'est Rimini. C'est contre... Mais par contre, Pasolini, lui, il est né à Bologne, même si ensuite est devenu Friulan d'adoption. Mais lui, il est né à Bologne.
Par Bertolucci contre... aussi.
Alors Bertolucci, il est né à Parme. Il est né à Parme, ah toujours bon. La même région. Mais il y en a plein qui sont nés dans la région Émilie-Romagne et qui ont apporté leur contribution. Alors je dirais que...
Une région qui dispose de beaucoup d'écrans, et il y a des pics de fréquentation. Le cinéma est très très présent, encore une fois, dans la région Émilie-Romagne.
Oui, alors il faut savoir que il y a une très longue tradition culturelle en Émilie-Romagne. Il faut pas oublier, et je le pointe à chaque fois que je peux, je le souligne, l'université de Bologne, la plus ancienne université laïque d'Europe occidentale. Pour certains, la date de fondation est 1063, donc 40 ans, même pas, on va fêter les 1000 ans. Mais c'est aussi le fait qu'il y a toujours eu beaucoup de passage, c'est une région de brassage de culture, parce que déjà du temps des Romains, était à la croisée des deux axes principaux de circulation. Et donc, bien évidemment, il y avait les marchandises, les hommes, mais aussi la pensée, la culture qui passait par là. Et ce qui fait que ce brassage-là se retrouve dans les institutions. Il y a beaucoup de centres qui tournent autour de la culture, de la proposition culturelle en Émilie-Romagne et à Bologne,
il y a une
des plus anciennes cinémathèques qui est encore en activité. Et que aujourd'hui aussi, c'est doté d'un côté pratique qui permet de la restauration des vieux films. Je sais que, par exemple, ils ont eu la charge et le privilège de restaurer la totalité de ce film de Chaplin, ce qui a donné une importance et renommée internationale, bien évidemment. Et Chaplin, tout le monde le connaît.
Oui, normalement. Ça fait partie un petit peu des...
Ouais, tous ceux qui s'intéressent au cinéma, en tout cas.
Il y a des chances. Allez, vous venez de nous rejoindre, édition du magazine d'actualité que je partage aujourd'hui avec Andrea Pulga, organisateur et animateur de séances de cinéma en italien et autour du cinéma italien de répertoire. Le cinéma italien de répertoire, c'est qui a plus de 40 ans, donc qui bénéficie encore d'un réseau de distribution dont nous on profite au travers ton action, Andrea, et depuis le mois de novembre 2016 avec une projection mensuelle, c'est 9 films à peu près à l'année, de septembre à mai au cinéma Vox Azur de Villefranche-de-Rouergue, une très très belle suite de saisons, je serais tenté de dire, avec des films qui ont des prix, et en général un prix au cinéma, c'est vraiment une indication, c'est un film à voir, quoi. Pour moi en tout cas, un César, un Oscar, une Palme, une récompense à Berlin ou à Venise, c'est un film qu'il faut mettre dans sa DVD tech, enfin faut se le mettre de côté.
Oui, disons que les prix en général, quand il s'agit de prix donnés aux films qui n'ont pas forcément un genre affiché, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que, bon, quand tu vas au festival de Sundance au festival de cinéma policier à Annecy, etc. Bon, là, le genre est affiché, pardon. Alors que quand il s'agit d'une Palme d'Or, un ours à Berlin,
Mostra Venise.
Le Lion d'Or à la Mostra de Venise, un Oscar ou un César, là, c'est toute catégorie confondue. Donc, ce qui fait que, effectivement, ça a attiré l'intérêt de plusieurs personnes qui se sont donc prononcées à faveur de cette œuvre.
C'est alors, le cas du Divorce à l'italienne qu'on pourra voir demain soir à 20h30 au cinéma.
Oui, alors là, pour moi, ce film est particulièrement intéressant et spécifique d'un genre, parce qu'en Italie, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la comédie à l'italienne, Risi, Monicelli, Comencini, enfin, on peut, la liste est longue. Tout le monde s'est essayé à ce genre de cinéma en Italie, parce que c'était facile à tourner dans les studios aussi, il faut le dire. Alors que là, Pietro Germi, c'est quelqu'un qui introduit toujours un aspect un peu à la fois parodique, satirique dans ses comédies, enfin dans ses films plutôt, parce que il dénonce par quelque chose de sympathique, une situation absurde, une situation paradoxale existant dans notre pays à cette époque, à savoir, en l'occurrence, le fait que le divorce n'existait pas, mais qu'il y avait toujours le moyen de divorcer quelque part. Et pas avec des systèmes un peu particuliers.
Divorce à l'italienne, faut pas nous en dire beaucoup plus, film de 1961-62, oui. Qui a obtenu des récompenses, Oscar du meilleur scénario original, et le réalisateur, alors ça c'est des petites choses qu'on découvre en préparant un peu les émissions, oui tout le monde se rappelle d'Un homme, une femme de Claude Lelouch, et le réalisateur a eu un prix ex aequo avec le film de Claude Lelouch en 1966 pour Ces messieurs dames.
Mais oui, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu la volonté de choisir certains titres. Bon, il faut quand même préciser au passage que le catalogue de tous les films que je peux éventuellement proposer est malheureusement limité par le fait que tout le cinéma n'a pas encore été numérisé. Tout le cinéma de cette époque-là, les films, il y en a encore plein qui n'ont pas été numérisés, donc qui ne sont pas projetable aujourd'hui, étant donné que la technique de projection a énormément évolué depuis une dizaine d'années. Et par ailleurs, il y en a d'autres qui, malheureusement, arrivant au bout de la période de validité des droits de diffusion, s'ils ne retrouvent pas immédiatement repreneur au terme de cette période, à la fois le même distributeur qui renouvelle les droits ou un autre qui les reprend, et bien évidemment, ça disparaît des catalogues parce qu'on n'a plus le droit de le diffuser dans des salles cinématographiques.
C'est quelque part dans un placard au frais, dans le noir, on ne peut pas le voir. D'accord.
Non, voilà. En attendant que quelqu'un se souvienne, que le reprenne, ça existe aussi. Ouais. Mais bon, ça complique un tout petit peu parce que moi j'avais une sélection en début de période que j'ai dû modifier parce qu'en attendant, les droits de diffusion étaient arrivé à terme et on ne pouvait plus l'insérer dans la programmation.
Allez, une petite digression, il y a un film justement que tu aimerais projeter et qui n'est pas là à disposition.
Or,
il y en a 50, oui. Allez, un.
Alors, c'est un De Sica qui s'appelle L'oro di Napoli, qui est un film absolument magnifique, un film à épisodes, mais tous les épisodes sont tournés par le même réalisateur, chose qui est assez peu commun d'ailleurs, parce que généralement à l'époque les films à épisodes étaient tournés par des différents réalisateurs qui composaient sur un thème des cours qui venaient mis à la queue leu leu former un long métrage qui était donc proposé, alors que là il s'agit du même réalisateur qui a composé son propre film en faisant différents cours sur le même thème, c'est-à-dire les quartiers de Naples et la vie des Napolitains. Mmh. C'est plein de poésie, d'amour, de mélancolie. Il y a un noir et blanc absolument magnifique. Il y a des acteurs connus, d'autres moins connus. Il y a des thèmes très touchants, d'autres qui sont très drôles. Enfin, il y a toute la panoplie et je peux pas le diffuser parce qu'il n'y a pas les droits ou alors il n'a pas été numérisé.
Pas encore. Peut-être un jour au Cinéma Vox de Villefranche, proposition peut-être à venir. Au mois de mars, L'auberge des filles perdues, ça c'est pour la version française, un film avec Simone Signoret et Marcello Mastroianni. On n'a pas parlé des acteurs italiens, mais là on a une belle figure quand même.
Ah bah, Marcello, c'est, tout le monde s'en souvient, La Dolce Vita et Anita Ekberg, qui dit Marcello. Voilà. Bon, il a tourné, je ne sais pas combien de films, il a tourné à peu près avec tout le monde, dans les quatre coins de la planète. Il a fait, je ne sais pas combien de films avec Tino Risi, avec Scola, 9 je crois, 6 ou 7 avec Fellini, enfin... Il est quand même devenu, au cours de sa carrière, la figure de proue pour plein de raisons et pour plein de réalisateurs. Ce n'est pas un hasard que certains cinéastes ont dû, à un moment donné ou à un autre, de leur propre carrière professionnelle, faire appel à lui pour assurer l'interprétation des personnages, parce que c'était devenu une sorte de... C'était emblématique, quoi, en fait.
Et puis voilà. Des acteurs français aussi, je pense à Simone Signoret. C'est un peu comme Hollywood, aller faire du cinéma en Italie, on oublie de le dire, mais pour ces acteurs à l'époque. Alain Delon, également.
Belmondo, Jacques Perrin.
Jacques Perrin, que l'on verra, d'ailleurs.
Bernard Blier, qui a tourné je ne sais pas combien de films en Italie, notamment Mes chers amis, dans lequel il a un rôle absolument extraordinaire, je trouve, et qui s'en sort avec une aisance incroyable. Philippe Noiret, il a quand même...
Jacques Perrin, c'est pour La fille à la valise,
par exemple.
Au mois de février.
Bien sûr. Oui. Mais bon, il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait une capacité extraordinaire qu'on a perdue depuis, et c'est bien dommage, de faire tourner les acteurs ou de faire travailler les réalisateurs de deux côtés des Alpes de manière quasi indifférente. Les Français venaient travailler en Italie, les Italiens venaient travailler en France. Mastroianni a continué d'ailleurs, parce qu'il est venu travailler, même vers la fin de sa carrière, il continuait à travailler un peu partout, y compris en France. Mais à cette époque-là, grâce à la comédie à l'italienne, effectivement, et à la comédie sociale en général, je l'appelle comme ça pour élargir un peu le spectre, mais effectivement, c'était presque obligatoire de voir de deux côtés des Alpes un interprète qui ne parlait pas la langue, mais qui était donc parmi les interprètes du film français pour les Italiens et des films italiens pour certains Français. J'ai fait mon évolution cinématographique avec ce principe-là qui m'est resté. Pour moi, c'est resté normal de voir des gens aller travailler de l'autre côté de la frontière, parce que c'était...
Et tu en as suivi le chemin, d'ailleurs.
D'ailleurs, le chemin, complètement, oui. Mais je suis venu travailler aussi de l'autre côté de ma frontière, oui, effectivement.
À Sceaux, encore
à Paris. Entre autres, à Paris d'abord, à Sceaux ensuite. J'ai terminé ma carrière à Sceaux, d'ailleurs. Et c'est là où, effectivement, l'idée de faire ce genre de proposition une fois parti à la retraite m'est venue, parce qu'on était souvent amené à être dans le cadre d'une sorte de ciné-club, parce qu'on organisait, grâce à la collaboration, la coopération des services de culture de la mairie, et au sein du théâtre dans lequel j'étais, moi, salarié, qui avait la gestion de la salle, on organisait des séances consacrées, justement, aux films du répertoire mondial du cinéma. Mais animées et amenées par une personne qui avait une position de, comment dire, avait un rôle reconnu dans la critique et l'accompagnement éducatif de ce genre de cinéma, et qui a animé, donc pareil, de cette façon-là, une fois par mois, le lundi spécifiquement. Et voilà, ça m'est revenu comme ça.
Allez, je vois le chrono qui file. On n'aura pas le temps de présenter l'ensemble des films, mais on se donnera rendez-vous pour les présenter tour à tour. Là, le rendez-vous qui nous est donné, c'est demain soir, Le divorce à l'italienne. Petit rappel de principe, demain soir, 20h30, rapide présentation du film, projection et débat à suivre autour du film. Rendez-vous à 20h30 au cinéma Vox Azur de Villefranche-de-Rouergue. La fille à la valise, c'est pour un petit peu plus tard. L'auberge des filles perdues pour encore plus tard. Chronique des pauvres amants. Enfin voilà, et on en a jusqu'au mois de mai et on aura l'occasion d'en reparler sur l'antenne. Je vois que ça tourne et que ça file. Voilà, merci Andrea d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de cette très belle initiative, encore une fois, de projection de films italien et du répertoire. Voilà, le répertoire, il s'arrête parce que ça peut être des années 80 aujourd'hui en 2025. Mais là, pour ce qui est prévu en 2025, ça dépasse pas 1960, 63, 64. Voilà.
Tout à fait.
On est pas mal dans cette période.
Complètement.
Merci Andrea. Un beau succès pour la projection de demain soir et cette première de l'année 2025. Et puis, on aura l'occasion de parler des projections à suivre. Merci Andrea.
Avec plaisir.
Merci.
Portez-vous bien.
C'était le MAC de ce mercredi 8 janvier. Merci à toutes et à tous. L'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. La suite du programme dans un instant.
CFM Villefranche, le MAG.